La présentation que je vous fais porte sur ce fond qui fait un peu film en noir et blanc des années anciennes. Parler de l'emploi des âgés, ça tombe bien. Mais je voudrais dire tout de suite que cette catégorie des travailleurs âgés a sans doute une pertinence, une existence sociale assez palpable, assez concrète, au travers de politiques sociales qui lui sont dédiées, au travers de négociations sociales qui portent sur ce thème, au travers d'un certain nombre d'indicateurs qui visent à le suivre, le fameux taux d'emploi des seniors, les comparaisons entre pays, etc. Scientifiquement, ce n'est vraiment pas avéré. Pour le moins, c'est une discussion. Est-ce qu'il y a une catégorie scientifiquement bien définissable des travailleurs âgés ? Je reviendrai là-dessus en fin de parcours. C'est pour le moins discutable. Et en tout cas, dans mon exposé et dans le cadre de ce colloque et de cet atelier, c'est beaucoup plus une approche processuelle de l'avancée en âge dans ses relations avec le travail qu'on va adopter. Il y a un accroissement du temps vécu et comment ça s'articule avec les caractéristiques du travail. Alors, pour les besoins de cet atelier avec cette thématique de l'identité de la reconnaissance, ce sur quoi je me centrerai beaucoup, comme vous allez le voir, c'est quand même la question de l'expérience. La question de l'expérience, là non plus, je ne donnerai pas une définition scientifique très très carrée, mais on va dire en gros, pour fixer les idées, tout ce qui est les événements que l'on a vécu et les enseignements qu'on a pu éventuellement en tirer individuellement, collectivement, etc. Et ça, évidemment, par rapport aux travailleurs plutôt en deuxième partie de carrière, ça joue en relation avec la caractéristique du travail un rôle majeur. Alors, la durée de ces exposés nous contraint un peu à tenir des propos assez généraux, mais je voudrais tout de même ouvrir mon intervention par deux exemples très très précis, évidemment sélectionnés de manière très arbitraire, de résultats d'études récentes menées dans notre propre réseau, l'un plutôt quantitatif et l'autre plutôt qualitatif, puisque dans notre propre équipe de recherche liée aux questions d'âge et de travail, on essaye de mêler ces deux niveaux d'analyse. Alors le premier, donc, très quanti, c'est un résultat d'une enquête récente, on est encore en train d'exploiter, statistique sur âge santé-travail dans une grande entreprise. Résultat pas encore publié. Et là, je vous sors ce résultat qui analyse les facteurs explicatifs de douleurs ressenties dans le corps, douleurs articulaires souvent, qui gênent dans le travail, chez donc des salariés plutôt quadragénaires, quinquagénaires. Et on fait une analyse statistique par une utilisation technique, je ne vous infligerai pas les détails, pour chercher dans le travail un certain nombre de facteurs liés qu'on va poser comme explicatifs. Alors, ce que l'on constate quand on regarde ce tableau, prenez ce qui est à droite comme des espèces de coefficients multiplicateurs de la probabilité d'avoir mal et que ça gêne dans le travail, ce que l'on constate, c'est que, bien entendu, la charge physique passée et aussi actuelle, il y a des traces du travail, joue un rôle, c'est-à-dire que le fait d'avoir une charge physique importante ou de l'avoir eue multiplie par plus de 3 ou plus de 2 la probabilité d'avoir mal et que ça gêne dans le travail, mais que, et là je pense qu'on est en plein dans la thématique de cet atelier, le fait d'avoir ou non un travail qui permet d'apprendre, le fait d'avoir ou non un travail dont on considère qu'il offre les moyens pour avoir un résultat de qualité, joue aussi un rôle, et un rôle pas du tout négligeable, et vous pouvez éventuellement, ceux d'entre vous qui êtes familiers avec ce qu'on appelle la régression logistique, déduire qu'on peut multiplier des coefficients entre eux et se rendre compte qu'on arrive presque à la même ampleur d'effet que le rôle joué par ailleurs et non négligeable de la charge physique. Une personne qui considère qu'elle n'a pas du tout un travail qui permet d'apprendre, qu'elle n'a pas du tout les moyens pour faire un travail de qualité, à 2,2 fois 1,7, on est pratiquement dans l'ordre de grandeur de la charge physique très très élevée. Donc vous voyez qu'il y a, dans un champ de bien-être parfaitement physique, souvent posé à propos des travailleurs vieillissants, qui peuvent être usés, qui peuvent avoir du mal à faire un certain nombre de tâches, des facteurs explicatifs, et donc des facteurs pour la réflexion dans la recherche et pour l'action, qui se situent du côté du métier, si vous voulez, de la reconnaissance, de l'expérience, dans une espèce de dynamique comme ça. Est-ce que tout ça progresse encore est-ce que je continue à régénérer des moyens de faire du bon travail? Est-ce que je continue d'apprendre dans mon travail? Alors, tout autre, vraiment tout autre contexte, une recherche menée par une équipe d'ergonomes québécois, Esther Cloutier et collègues, sur le travail des aides-soignantes à domicile, qui sont des personnes qui sont elles-mêmes quinquagénaires, qui sont plutôt dans les dernières années de leur vie professionnelle, et qui soignent des vieilles dames de 80-90 ans chez elles. Vous savez que c'est un travail extrêmement dur parce que les lieux de vie des personnes ne sont pas des lieux de travail et donc ne sont pas aménagés très bien pour. En plus, il y a des contraintes de temps extrêmement strictes et en même temps, il faut ménager des contacts humains de qualité à l'intérieur de ce travail-là. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces aides-soignantes expérimentées s'évadent assez largement du travail tel qu'il leur est prescrit en puisant dans les ressources de leur expérience des stratégies extrêmement fines visant à gérer les contraintes de travail, à faire très bien son travail sans se nuire à soi-même. Et dans cette liste que je n'ai pas le temps de développer en détail, je vous prends juste un point qui, anecdotiquement, se commente assez bien, choisir le moment des conversations personnelles. Quand on est une aide-soignante auprès d'une personne âgée, en principe, on converse en temps masqué. On fait la conversation en temps masqué, au moment où on soigne la personne, on lui fait quelques soins corporels, on lui donne la douche, on la coiffe, etc. Et là, on discute. Or, parfois, ces aides-soignantes, en début de visite chez une vieille dame, commencent par s'asseoir, un petit guéridon, un verre d'eau, à table de la cuisine, un petit café, etc., et prennent 10 minutes comme ça. Alors, à la sortie, Esther Cloutier et ses collègues sont amenés à interroger. « Tiens, vous avez une sympathie particulière pour cette personne, vous avez fait comme ça, c'est ce que vous faites d'habitude. » Non, non, c'est pas ça. Enfin, oui, sympathie, pourquoi pas. Mais c'est pas ça, c'est que cette personne a un début d'Alzheimer, un début de démence sénile, etc. Et ces quelques minutes du début, c'est ce qui va créer un climat de confiance que j'ai appris comme une nécessité qu'il s'agit de générer avec cette vieille dame. Et derrière, le travail sera beaucoup plus facile. Je me fatiguerai moins et je regagnerai bien au-delà le temps, entre guillemets, perdu au début. Voilà le genre, et admettez qu'il y en a des centaines d'autres, on peut vous renvoyer aux divers écrits en psycho du travail, en ergonomie sur le sujet, le genre de savoir-faire extrêmement fin, en l'occurrence dans une relation de service, qui peut se déployer, se construire grâce à l'expérience. Alors, le modèle un petit peu plus général qu'il y a derrière tout ça, il est assez simple à présenter là, c'est l'idée que en avançant en âge, il y a un certain nombre de déclins fonctionnels qui peuvent survenir. Ils sont très variables selon les personnes. Ils peuvent être induits par le travail. Il y a des traces du travail passé, je l'ai évoqué dans mon graphique statistique du début. Ils peuvent être révélés aussi par le travail. Certaines petites déficiences qu'on a ne se révèlent que si le travail est particulièrement exigeant. Et en face, c'est donc sur ça que j'insiste aujourd'hui, que nous insistons d'ailleurs tout le temps dans notre propre équipe, il y a la construction d'une expérience avec des compétences sur la tâche actuelle ou éventuellement des tâches précédentes dont les caractéristiques vont me servir pour celle-ci. Il y a des compétences sur soi-même. Je sais, en principe, de mieux en mieux, je suis de plus en plus attentif à ce qui me fait mal, ce qui me fatigue, ce que je réussis, ce que je rate, etc. Et sur le collectif, j'apprends en quelque sorte, tout au long de la vie professionnelle, à mettre en place, élaborer des formes de coopération, de partage des tâches de plus en plus précises, de plus en plus adaptées et qui tiennent compte d'ailleurs en partie des déclins qui sont dans la partie gauche de ce graphique. C'est donc toutes ces stratégies dans le travail qu'il est intéressant de comprendre, et ce sont des pistes de recherche très fructueuses, et il est intéressant de comprendre dans quelles conditions elles sont réalisables, donc d'interroger les milieux de travail de ce point de vue, dans quelle mesure elles sont efficientes, c'est-à-dire est-ce qu'elles obtiennent un bon résultat, et au passage, qu'est-ce qu'un bon résultat? À quoi reconnaît-on que telle ou telle personne est performante? Est-ce que la manière dont on apprécie sa performance rend justice aux ressources de l'expérience? Est-ce qu'elles sont transférables? Là, il y a de vastes pôles avec toute une série de champs de la didactique professionnelle. Est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce qu'il y a transmission des savoirs professionnels, etc.? Est-ce qu'on peut transporter un certain nombre de ces compétences-là d'une situation de travail à une autre? Et pour toutes ces raisons-là, on est en plein dans le thème donc, de l'atelier. Est-ce qu'elles sont reconnues? Dans quelles conditions elles le sont? Ou dans quelles situations elles sont niées? Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tout ça, ce modèle un peu simplifié, est évidemment à la rencontre, voire télescopé, d'évolution du travail dont il a été question dans divers exposés depuis le début de ce colloque. Résumons-les, ces évolutions du travail, en s'interrogeant sur la question de savoir si ça crée un milieu de travail accueillant ou non pour les âgés, compte tenu de ce modèle incorporant les ressources de l'expérience. Donc en gros, et à divers moments dans ce colloque, ça s'est lu, les métamorphoses du monde du travail pourrait se caractériser en termes de conséquences sur l'activité de travail et sur les enjeux de bien-être des travailleurs par ces quatre grandes têtes de chapitre que je vous propose là, assises sur de nombreux résultats de recherches diverses, statistiques ou d'études de terrain. Une métamorphose qui n'en est pas une, les contraintes et les sollicitations physiques fortes se maintiennent, contrairement à ce que l'on dit parfois, pour plein de raisons que l'on pourrait développer, mais ce n'est pas le lieu. Et puis, il y a, comme dirait Philippe Askenazy, qui s'exprimait hier, il y a ce modèle du productivisme réactif, avec cette idée qu'il faut produire beaucoup et en même temps s'adapter à un contexte très changeant, qui se traduit par de moins en moins d'horaires stables, de plus en plus de formes cumulées diverses de pression temporelle dans les situations de travail, et l'idée plus générale, beaucoup développée par Boltanski et Chiappello dans le Nouvel Esprit du Capitalisme en 1995, que la bonne entreprise est celle où tout change tout le temps. Et une entreprise stable, c'est pas très bon signe. Un contexte de travail stable, c'est pas très bon signe pour la performance. Alors résumons, toujours de manière très condensée, pourquoi chacune de ces dimensions pose des problèmes aux usagers. Les contraintes physiques qui persistent. Alors je passe très vite, il y a tout un champ de ergonomie, épidémiologie professionnelle qu'il faut continuer, c'est-à-dire auquel il ne faut pas renoncer. Et c'est un problème pour la recherche en France, parce qu'une partie de ces disciplines-là, la physiologie du travail par exemple, sont en recul, et c'est très inquiétant et regrettable. Bon. Donc il y a à continuer à travailler sur les facteurs d'usure à long terme, y compris post-professionnels. Il y a besoin aussi, c'est un champ plutôt de ce qu'on appelle de démographie du travail, de réexaminer toute une série de mécanismes de sélection qui font qu'il y a une affectation différentielle des jeunes et des âgés aux diverses contraintes. Il y a besoin de vérifier si ça a des effets protecteurs ou non, si ça accumule un certain nombre de contraintes sur les jeunes, si ça va pouvoir continuer, si ça ne va pas provoquer des facteurs d'exclusion. Je passe volontiers très vite sur ces points majeurs. Ils sont, et ils continuent d'être, et c'est heureux, bien balisés par des recherches. Et puis, il y a un volet un peu plus récent et qui a besoin de croître et d'embellir, qui est l'idée que le rôle de l'expérience est majeur dans la préservation de la santé, notamment chez les âgés, et qu'il y a besoin de créer des conditions, mais lesquelles, pour que ce rôle de l'expérience et ce rôle de préservation puissent être maintenus. Deuxième aspect, les horaires de plus en plus chahutés, bousculés, bizarres, etc., des périodes scindées, du travail de nuit, etc. Alors là, pareil, il y a tout un champ de connaissances que je rappelle, mais qui sont des choses pas mal connues, pas mal investies par la littérature internationale, en chronobiologie, etc. Les troubles de santé, les perturbations de la vie familiale, est-ce que ça s'accumule au fil de l'âge, etc., etc. Quels peuvent être les aspects bénéfiques des pauses, notamment des siestes nocturnes, qui sont un thème de recherche très très précis, qui se développe notamment au Japon et qui est très très important et intéressant à approfondir. Et également les conséquences des caractéristiques du travail à tel ou tel moment de la journée. Mais là encore, un rendez-vous majeur est peut-être de développer des recherches sur le rôle de l'expérience, et notamment l'expérience d'un horaire. Je sais les caractéristiques d'une tâche, je sais mes propres caractéristiques à telle ou telle heure du travail et de la nuit, et en fonction de ce que je sais, du savoir que j'arrive ou non à accumuler là-dessus, je peux ou je ne peux pas gérer plus ou moins bien les caractéristiques du travail à ce moment-là de la période circadienne du jour ou de la nuit. Les facteurs de pression temporelle. Caractérisons très vite le rôle qu'elles peuvent avoir en termes de télescopage des ressources de l'expérience. Alors, vous avez déjà vu dans ce colloque présenter les grandes catégories de contraintes de rythme de travail. On les modélise parfois de manière simplifiée en contraintes industrielles avec des normes, des délais de production assez carrés, et les contraintes marchandes qui, de plus en plus, Michel Lallemand le rappelait, s'adapter au client devient une caractéristique de plus en plus fondamentale. Quand les deux catégories sont faibles, il y a toute une série de ressources qui sont déployées grâce à l'expérience, des ressources pour anticiper, vérifier, se concerter, apprendre, etc. Dès que se durcit l'une d'elles, si se durcissent les contraintes industrielles, il y a quand même des stratégies fondées sur la stabilité de l'univers industriel relative. Quand se durcissent les contraintes marchandes, il y a des stratégies fondées sur l'existence, pensez aux vendeurs, aux guichetiers, où il y a des temps forts et des temps creux. Mais quand les deux se cumulent, là, on a une restriction de toutes les ressources possibles de l'appel à l'expérience, parce qu'on n'a ni la prévisibilité, puisqu'il y a sans arrêt des imprévus, on s'adapte à la demande, ni les temps creux, parce qu'un cadrage industriel de plus en plus précis des tâches, à l'hôpital, dans les transports, dans les services, dans les banques, etc., fait qu'il n'y a plus de temps creux. Alors tout ça a des enjeux pour le travail des vieillissants, pose des problèmes à la fois en réclamant la mise en œuvre de l'expérience et en la compromettant, en entrant en conflit avec des enjeux de richesse du travail, c'est-à-dire que si je veux m'abstraire d'être au front, ça rejoint ce que tu disais sur le surinvestissement, je vais peut-être me retrouver avec un travail moins qualifié, et bien entendu, des enjeux du fait que, sous pression temporelle, les transmissions de savoir entre générations deviennent beaucoup plus délicates. Ni les anciens, ni les jeunes, en quelque sorte, n'ont le temps. Tout le monde est pressé, personne ne se parle, et les savoirs ne circulent plus. Alors, dernier point, celui du modèle de la mobilité dont je parlais, le fait que la bonne entreprise, c'est celle qui bouge. Comme disait le bouquin de Rosabeth Moss-Canter, il faut apprendre aux géants à danser. Nouveau mythe, sans doute, des modèles d'entreprise. Alors là, on dit toujours que les âgés sont particulièrement en difficulté. Oui et non. Il s'agirait d'évaluer de manière très précise où sont les facteurs éprouvants en période de changement, notamment pour des personnels expérimentés. C'est une piste de recherche, déjà amorcée, mais on peut en trouver d'autres. Comment préserver la cohérence des parcours? Peut-on changer sans tout casser dans son propre parcours, sans devoir brûler toute une série d'acquis précédents? Comment préserver la confiance des collectifs, c'est-à-dire comment on peut garder des interrelations, des pratiques réflexives communes alors que l'entreprise ne cesse de changer? C'est un enjeu majeur pour les expérimenter. Et bien sûr, est-ce qu'on acquiert au travers de tout ça une forme d'expérience du changement, c'est-à-dire une sorte de capacité à voir venir des changements nouveaux et à savoir comment se comporter dans les situations de changement elles-mêmes. Alors, avec tout ça, je me suis franchement éloigné d'une idée de seuil de travailleurs âgés et je me suis franchement éloigné, apparemment, du débat social de tout de suite, qui est, et avec tout ça, à quel âge on arrête. Et je terminerai vraiment là-dessus. Ça fait encore un peu débat chez les économistes de savoir si toucher à l'âge de la retraite va amener de grands remaniements dans les politiques d'emploi, de formation et de travail qui vont permettre que tous ces problèmes-là se résolvent mieux, ou si à l'inverse, il faut remettre les bœufs devant la charrue, et si c'est les politiques de travail, de l'emploi, de la formation qu'il faut d'abord modifier si l'on souhaite réellement que les vies professionnelles se prolongent. Mon exposé ne vous a évidemment pas caché que je me range dans la deuxième optique, qui, en dehors des économistes, à mon sens, ne fait plus tellement débat. Je crois qu'il y a un consensus assez solide pour dire qu'il y a un besoin de réflexion et d'action sur les politiques du travail, d'emploi et de formation, notamment pour les salariés en deuxième partie de carrière, et que c'est de ça que dépend un éventuel allongement de la vie professionnelle possible ou impossible, sinon on va fabriquer une société de vieux chômeurs et de vieux RMI, ce qui est, espérons-le, pas le but visé. Je vous remercie de votre attention.